Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Te Bechorot, page 16, Daf Tetzain. Bonne écoute et bon limoud.
Le Hatouyeh Halavo pour ajouter l'interdiction du lait. Amarmar, l'Agmara cite le passage de la Braïta qui a dit au sujet des petits d'un animal qui a été offert en sacrifice alors qu'il était parfait et qui a eu un défaut après. Ces petits-là ne peuvent pas être achetés alors qu'ils sont parfaits et on ne peut pas les offrir pour tout autre sacrifice. L'Agmara déduit de là, c'est donc que seulement quand ils sont parfaits, on ne peut pas les racheter et quand ils ont un défaut, on pourrait donc les racheter. On avait pourtant vu qu'ils n'ont pas la force de rendre sain leur substitut et donc ils n'ont pas la force d'être rachetés. La Gemara répond, c'est seulement pour tout autre sacrifice qu'on ne peut pas les offrir, ces petits-là, mais pour le même sacrifice que leur mère, on peut les offrir. Comment ça peut se faire? C'est donc comme l'idée de Rabbi Hanina qui dit qu'on peut les offrir pour le même sacrifice que leur mère avant qu'on rachète leur mère, et donc avant leur naissance, et à ce moment-là, on pourra les racheter quand ils auront un défaut. C'est vraiment l'enseignement de Rabbi Hanina. Nema teve tuofta de Ravuna, la Gemara demande, allons-nous dire que c'est une réfutation à l'enseignement de Ravuna qui a dit qu'il faut prendre ses petits et les enfermer dans une chambre pour qu'ils meurent? Ravuna répond, non, en fait, même s'ils ont un défaut, ils ne peuvent pas non plus être rachetés. Et voilà sa lecture de la Braïta. Et en fait, c'est seulement parce que, dans la première partie de la Braïta, au sujet des petits, des animaux qui ont été offerts après avoir un défaut, qu'on a dit qu'ils peuvent être rachetés même s'ils sont parfaits, il est dit dans le deuxième cas de la Braïta, donc du cas inverse des petits, des animaux qui ont été offerts avant d'avoir un défaut, que les petits ne peuvent pas être rachetés s'ils sont parfaits, mais en fait, ils ne peuvent pas non plus être rachetés même s'ils ont un défaut. Et de la même façon qu'on a enseigné dans la première partie de la Braïta, donc au sujet des animaux qui ont été offerts après avoir un défaut, que leurs petits peuvent être offerts pour n'importe quel autre sacrifice. On a dit aussi au sujet des animaux qui ont été offerts quand ils étaient parfaits et qui ont eu un défaut après, que leurs petits ne peuvent pas être offerts pour tout autre sacrifice, mais en fait, ils ne peuvent pas non plus être offerts pour le même sacrifice que leur mère. Et c'est donc l'enseignement de Ravuna qu'il n'y a rien à faire avec ses petits, sauf les enfermer dans une chambre pour qu'ils meurent. Voilà pour le Daf Tetzvav. Bechorot Daf Tetzain. On reprend Daf Tetzain à Moudalef à la 11e ligne à partir du haut. Vashortan Bachutz Patur. Rashi explique que c'est un passage supplémentaire de la Braïta au sujet des animaux qui ont été offerts avant d'avoir un défaut. Que si on les égorge en dehors du temple, on est exempté de l'interdiction de Shritat Chutz d'approcher un sacrifice en dehors du temple. Or, dans notre Mishnah, nous avons vu le contraire. Il est dit dans une Mishnah de Zvachim que tout animal qui n'est pas apte à être approché à l'intérieur du temple n'est pas concerné par l'interdiction de Shritat Chutz de l'approcher à l'extérieur du temple. Et que par conséquent, tout sacrifice ayant un défaut, même temporaire, n'est pas concerné par cette interdiction. Voilà donc pourquoi la Braïta dit que celui qui l'égorge à l'extérieur est exempté de Shritat Chutz. Du coup, comment comprendre la Mishnah? On verra ça tout de suite. Ravuna Matni Chayav. Ravuna avait une autre lecture dans la Braïta et il lisait que celui qui approche un animal qui était destiné à un sacrifice, qui avait été offert quand il n'avait pas de défaut et qui a eu un défaut plus tard, si on l'approche, donc qu'on l'égorge en dehors du temple, on transgresse l'interdiction de Shritat Chutz. Umokimna Belukin Shebaïn. Et il expliquait cette Braïta dans le cas de Dukin Shebaïn. Ce sont des défauts très faibles à l'intérieur de l'œil. Ça peut être soit une membrane sur l'œil, ou un point à l'intérieur de la partie colorée de l'œil, ou alors un défaut à la paupière de l'œil. Valiba de Rabbi Akiva d'Amar Imalou le Yerdou. Rabbi Akiva pense, dans la Maseret Zvachim, qu'un sacrifice qui a un défaut de ce genre à l'œil, si on l'a déjà égorgé et qu'on a apporté ces parties sur l'autel, on peut les approcher, c'est-à-dire qu'a posteriori, un sacrifice de ce genre n'est pas inapte. Et puisqu'on les considère comme aptes à l'intérieur du temple, c'est pour ça qu'ils sont concernés par la Shitatrot, l'interdiction de les approcher en dehors du temple. C'était donc aussi la raison de la Mishnah qui a dit au sujet des animaux qui ont été offerts en sacrifice alors qu'ils étaient parfaits et qui ont eu un défaut plus tard que celui qui les égorge à l'extérieur du temple est passible de cette interdiction. C'est aussi dans ce cas-là de Dukin Shebaïn, de ces petits défauts à l'œil et d'après Rabbi Akiva. Ben Nifne Pidiono, Ben Lachar Pidiono, Oset Moura. La Gemara cite encore un passage de la Braïta dans lequel il est dit que ces animaux qui ont été offerts alors qu'ils étaient parfaits et qui ont eu un défaut après, à la fois avant leur rachat et après leur rachat, ils sont capables de rendre sain leur substitut. Si quelqu'un les a échangés contre un autre animal, le substitut devient aussi sain. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Bar Avoua, Utmurato Lachar Pidiono Meta. Rav Nachman a dit au nom de Rabba Bar Avoua, et le substitut qui a été fait après son rachat, celui-là, on ne peut pas le racheter, mais on doit le faire mourir. Maïtama, Echeliavid, Likrevei, Mikoach Dusha Truya Kaatia. Quelle en est la raison? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? L'approcher, du moment qu'il vient par la force d'une sainteté repoussée, on ne peut pas l'approcher. Lifreka, lo alima le mitfas pidiona, ilkar meta. Le racheter, on ne peut pas non plus, puisqu'il n'a pas la force, puisque la sainteté est tellement assez affaiblie, il n'a pas la force d'attraper son substitut, son rachat. C'est pourquoi il faut le faire mourir. Makifla Rav Amram, vetit achil bemuma de baalim, vechima benzul et murad becharuma aser. Rav Amram a posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le manger, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger ce substitut quand il aura un défaut pour son propriétaire, de la même façon que au sujet du substitut du Bechor et de la dîme des animaux, du Maaser Behema, Ditnan, Tmurat Bechor ou Maaser, Hen ou Vladan, ou Vlad Vladan, Asof Kola Olam, Arien ki Bechor ou Maaser, Veyachlu Bemuman Libaalim. Car il est dit dans une Mishnah au sujet du substitut du Bechor et du Maaser, donc le substitut lui-même, ses petits, les petits de ses petits, jusqu'à la fin, sont considérés comme le Bechor et le Maaser, et peuvent être mangés en ayant un défaut par le propriétaire. Amar le Abaye, Zeshemimo Alab, Bezeshemimo Alab. Abaye lui a répondu, celui-ci a le nom de son origine et celui-là porte le nom de son origine. Zeshemimo Alab, Tmurat Bechoro Maaser Mikraya. Celui-ci a le nom de son origine, il est appelé, il est nommé le substitut du Bechor et du Maaser. Ma Bechor ou Maaser, Bemouman Mitachlan Libaalim, Aftmoratan Mitachla. De la même façon que le Bechor et le Maaser, s'ils ont un défaut, sont mangés par le propriétaire. De la même façon, leur substitut peut être mangé s'il a un défaut. Veze Shamimo Alab, Tmurat Kodashim Mikraya. Et celui-là porte le nom de son origine. Il est appelé un substitut de sacrifice, d'animal destiné à être un sacrifice, ma kodashim lo mitachle et la bepidion, af muratan ami lo mitachle et la bepidion, veha lo alima le mitfas bidiona. De la même façon que les animaux destinés à être des sacrifices ne peuvent pas être mangés sans avoir été rachetés, de la même façon, leur substitut ne peut pas non plus être mangé sans avoir été racheté. Et ils n'ont pas la force de se faire racheter, c'est-à-dire de passer leur sainteté sur un substitut, c'est pourquoi il faut les faire mourir. Tania Kavate de Rav Nachman. Nous avons appris dans une braïta l'enseignement de Rav Nachman. Minaim netmurat psule amugdashin shemeta, Talmud lomar mimale agera tamei. D'où savons-nous que le substitut des psule amugdashin, des animaux qui étaient destinés à des sacrifices qui ont eu après un défaut et qu'on a racheté, que ces substituts-là doivent mourir, car il est dit dans la Torah, c'est dans la parashat Shmini, il est dit, Achetze lotochlu, voici ceux que vous mangerez pas, mimale agera ou mimaprisé à part ça, parmi ceux qui ruminent et qui ont les sabots fendus, etc. La fin du verset est, Tamehu lachem, il sera impur pour vous. On apprend de là qu'il existe des male agera, des ruminants, qui normalement devraient être permis et qui sont pourtant interdits. On dit qu'il s'agit de ces substituts de psoulé à mukdashim, qui doivent mourir. La Gemara demande, Haimi Bailei le Chamesh Chataot Metot, nous avons pourtant besoin de l'enseignement de ce verset pour apprendre qu'il y a cinq sortes d'animaux qui ont la sainteté de Khatat et qui doivent mourir. Il y a un problème au sujet des sacrifices comme Khatat et Hacham qui ne peuvent venir que pour expier une faute. Et si, pour une raison ou une autre, la faute est déjà expiée ou qu'il n'y a plus de possibilité d'expier la faute, l'animal qui a une sainteté de Khatat ne peut pas être approché et il doit mourir. Aoum il m'a frissé à part ça, tamé nafka. La Gemara répond, au sujet des cinq sortes de Khataot qui doivent mourir, on apprend des mots matricés à part ça, tamé, les animaux ruminants qui sont impurs. On apprend ça donc du même verset, mais de deux autres mots. Tamé anami achi, minayin chamesh chataot metot, talmud lomar mi matricé à part ça, tamé. Nous avons effectivement appris de cette façon-là dans une braïta, d'où savons-nous que les cinq sortes de chataot meurent, car il est dit dans le verset, mi matricé à part ça, parmi les ruminants, tamé est impur. C'est donc ce qu'on a dit, qu'on apprend ça de ces deux mots-là, de matricé à part ça. La Gemara demande, chamesh chataot metot hilcheta gnirela. Pourtant, cet enseignement que il existe cinq sortes d'animaux qui ont la sainteté de chatat qui meurent, on a appris ça par halakha le Moshe Messinaï, un enseignement transmis oralement depuis Moshe Rabbeinu. On n'a donc pas besoin d'apprendre cet enseignement du pasouk. La Gemara répond, « Ela qui attaquera les tmurat Hacham. » Il faut donc dire que, quand on a besoin de l'enseignement du verset, c'est pour le substitut du Hacham, qui lui doit paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et à ce moment-là, on pourra le racheter et apporter avec sa valeur un Ola. « Tmurat Hacham namin khatahi kol shevechatat meta be Hacham roa » La Gemara demande, mais cet enseignement-là, au sujet du substitut du Hacham, nous le savons aussi par un enseignement transmis oralement depuis Moshe Rabbeinu, qui nous dit que tout animal qui, si il avait eu la sainteté de Khatat, et il aurait dû mourir, s'il est un Hacham, il doit paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et la Tmura fait partie, le substitut fait partie de ces animaux-là qui doivent mourir s'ils sont un Khatat. Et donc, si c'est un substitut de Hacham, il est évident que il doit paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et là, le olam chamesh chataot metot, v'itzarech krav, v'itzarech hilchata. Je te dirais toujours que ce qu'on apprend de ce verset, c'est effectivement que ces cinq sortes de chataot qui doivent mourir, et nous avons besoin de l'enseignement du verset et aussi de l'enseignement oral depuis Moshe Rabbeinu. Dimikra avamina le raya. Si nous n'avions appris les lois qui concernent ces cinq sortes de chataot seulement du verset, nous aurions dit que le verset veut seulement dire qu'il existe des animaux qui ruminent et pas qu'ils sont déjà impurs, mais qu'il faut attendre qu'ils deviennent inaptes, tamé pour dire inaptes, c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'ils aient un défaut et à ce moment-là on peut les racheter et approcher avec eux un autre sacrifice comme un hola. Kamashmalan hilchata lembita. C'est pour ça qu'on apprend de l'enseignement oral depuis Moshe Rabbeinu qu'ils doivent mourir. Vim hilchata avamina echa de avad ikri veachal mehane chamesh chataot isura ika lableka. Et si c'était seulement à cause de l'enseignement oral depuis Moshe Rabbeinu, on aurait pu penser que si a posteriori quelqu'un a mangé de ces cinq chataot, il a seulement une interdiction, mais il n'a pas de lave de la Torah, il n'a pas de lotaasé de la Torah. Kamash malam de ika lav, on apprend donc du verset qu'il y a une interdiction de lav. Vibaitema, le accouché davar haba mima legera, le davar haba mima frise haparsa. La Gemara donne une autre réponse, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'inclure l'enseignement de ces cinq chataot qu'ils doivent mourir dans ce verset. En fait, on le savait déjà par l'enseignement depuis Moshe Rabbeinu, mais c'est seulement pour comparer le sujet de malegera. C'est donc le substitut des psoulé amoukdachin qu'on apprend de ces mots-là au sujet des cinq rataot qu'on apprend des mots matricés à part ça. De la même façon que malehalan bemita, afkan bemita. De la même façon que au sujet des cinq rataot, ils doivent mourir, le substitut des psoulé amoukdachin doit aussi mourir. On commence la Mishnah. Amekabel son barzel minaovet kochavim, celui qui entreprend l'élevage du menu bétail d'un non-juif en fixant le montant de sa responsabilité. Cela veut dire que, quoi qu'il en soit, le non-juif récupérera ses brebis ou leur valeur si elles meurent ou qu'elles perdent de la valeur. Voilà pourquoi on les compare à du son barzel, du bétail de fer qui ne risque pas de perdre de valeur. Il est convenu que les petits qui naîtront seront partagés. Ici, comme il y a un montant fixe à payer, on aurait pu penser que ces brebis sont considérées comme appartenant entièrement aux juifs. Et pourtant, on tourne la page. Vladotem Pturim.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daftet Zain Amud Bet.
Les petits qui naîtront de ces brebis sont exemptés des lois du Bechor, c'est-à-dire que si elles mettent bas, les petits ne seront pas Bechor, ne devront pas être donnés au Kohen. Vladé Vladotem Chayavim. Alors que les petits-enfants de ces brebis, si elles mettent bas, ont les obligations du Bechor, c'est-à-dire que à la quatrième génération, à partir des brebis, il y a les obligations du Bechor. La raison pour laquelle les premières générations sont exemptées des lois du Bechor est parce que il y a une responsabilité de la valeur de ces brebis, qui sont en fait une dette du juif envers le non-juif, sur les brebis elles-mêmes et leurs petits. Si le non-juif vient réclamer son dû et que le juif n'a pas de quoi lui payer, il prendra les brebis. S'il ne trouve pas les brebis, il prendra les petits pour se faire payer. Et c'est donc qu'il y a une certaine possession du non-juif sur ces animaux. Alors que, au niveau plus loin, c'est-à-dire déjà la troisième génération, le non-juif n'a déjà plus du tout de possession dans ces animaux. C'est pour ça qu'il y a une obligation de Bechor. Emid Vladoten Tachatimoteen. Si le juif a engagé les petits pour être responsable du paiement en même temps que les brebis, ou à la place des brebis, du coup, tout est décalé d'un cran. C'est-à-dire que ces petits-là sont considérés comme s'ils étaient les brebis eux-mêmes, et Vladé Vladot Pturim, les petits-enfants des brebis, si elles mettent bas, sont exemptés des lois du Bechor, c'est-à-dire que la quatrième génération est aussi exemptée des lois du Bechor, ou Vladé, Vladé, Vladot, Chayavim. Alors que la quatrième génération, si elle met bas, à ce moment-là, c'est la cinquième génération qui sera donnée au Kohen et qui a les obligations du Bechor. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afilu Adasara Dorot Pturim, Shachayutan Lovet Kochavim. Rabban Shimon ben Gamliel pense que même jusqu'à 10 générations, les petits sont exemptés des lois du Bechor, c'est-à-dire jusqu'à toujours, puisque tous les petits sont responsables vis-à-vis du non-juif, et le non-juif viendra saisir les descendants de ces brebis si jamais il ne trouve pas de les brebis elles-mêmes ou d'autres moyens de se faire payer. Rachel si yalda min ez, ve si yalda min rachel, ptura min aprora. Si une brebis met bas une espèce de chevreau, ou si une chèvre met bas une espèce d'agneau, il est exempté des lois du Bechor. Vim yesbo miktat simanim chayav. Et s'il a certaines caractéristiques comme sa mère, il a les lois du Bechor. La Gemara demande, les mêmes rats d'équivalent de l'onakat mara zuzé birshuta de mara kaima. Allons-nous dire que tant que le propriétaire n'a pas reçu l'argent, c'est considéré comme dans sa possession. C'est-à-dire que dans notre Mishnah, on voit que du moment que le non-juif n'a pas reçu le paiement pour ses brebis, quoique le juif s'est engagé à une certaine somme, on considère encore les brebis comme appartenant aux non-juifs. C'est pour ça qu'elles sont exemptées des lois du Bechor et même leurs petits. Veronino, en mekablin son barzel mi Israël mitnei shehu ribit. On pose une question d'une Mishnah de Baba Metzia dans laquelle il est dit qu'on n'a pas le droit d'entreprendre l'élevage de menu bétail d'un autre juif avec les conditions qu'on a dit dans la Mishnah de Tson Barzel, de bétail de fer, c'est-à-dire que on s'engage à payer, quoi qu'il en soit, leur valeur, si jamais elles se perdent ou qu'elles perdent de leur valeur, parce que c'est considéré comme un prêt à intérêt. Ici, puisque de toute façon, le juif devra payer la somme, c'est comme s'il avait déjà acheté ces animaux et qu'il doit leur valeur à l'autre juif. Maintenant, s'il y a un prêt, il y a un problème de ribit, d'intérêt, puisque ici, il donne aussi une partie des petits au propriétaire, donc au prêteur, Et dans ce cas-là, c'est considéré comme un prêt à intérêt, ce qui est interdit entre deux juifs. Alma birsuta de mekabel kaima. C'est donc qu'on considère que ces brebis sont en possession de l'entrepreneur et pas du propriétaire initial. C'est donc contradictoire à notre Mishnah. Amar Abaye lokashia. Hadekabil ale unsa vezula. Abaye répond, ce n'est pas une question. Ici, dans le cas du non-juif qui a transmis ses animaux à l'entrepreneur juif, il s'agit du cas où le propriétaire non-juif a accepté la responsabilité de cas de force majeure ainsi que de cas de baisse de prix. C'est-à-dire que pas en tout cas le juif devra payer cette somme, c'est seulement dans certains cas, mais s'il y a un cas de force majeure ou un cas de baisse de prix, il ne devra pas payer. C'est pour ça qu'on considère que c'est encore en possession du non-juif. Alors que dans la Mishnah de Baba Metzia, il s'agit du cas où le propriétaire initial juif n'a pas accepté la responsabilité de cas de force majeure ainsi que de cas de baisse de prix, et c'est l'entrepreneur qui a toutes ces responsabilités-là. C'est pour ça qu'on considère qu'elles appartiennent entièrement à l'entrepreneur et qu'il n'a qu'une dette financière par rapport au propriétaire initial. C'est pourquoi il y a le problème de ribit, de prêt à intérêt. Amar le Rava, de kabil ale unsa vezula tson barzel karitle. Rava lui a posé trois questions. Premièrement, s'il s'agit d'un cas où le propriétaire initial a accepté sur lui la responsabilité de cas de force majeure ainsi que de baisse de prix, est-ce que ça s'appelle tson barzel, le bétail de fer qui ne risque pas de bouger? Veod mai paska. De plus, même si tu veux traduire tson barzel par un cas pareil, qui a tranché pour faire une différence entre certains tson barzel et d'autres tson barzel? Veod adetani sefa aval mekablin tson barzel mina oved kochavim. De plus, pourquoi est-ce que dans la Mishnah de Baba Metzia, quand on veut donner un cas où on a le droit d'entreprendre l'élevage de menu bétail de quelqu'un d'autre, on dit on a le droit d'entreprendre l'élevage d'un menu bétail si on l'entreprend d'un non-juif? L'ifluk velitne bedida, on aurait pu faire une différence chez le juif lui-même sans passer au cas d'entreprendre d'un non-juif. Bamet barim amorim de lo kabil ale unsa vezula, aval kabil ale unsa vezula, shapir dami. Dans quel cas est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit d'entreprendre l'élevage de tson barzel d'un juif? C'est seulement si le propriétaire initial n'a pas accepté la responsabilité de cas de force majeure ainsi que de cas de baisse de prix, mais si le propriétaire a accepté la responsabilité de ces deux choses-là, on a le droit. Puisque dans ce cas-là, on considère que ce n'est pas une vraie vente et ça appartient encore au propriétaire initial, comme ici. Ela marava idi veidi de lokabil ale unsa vezula. C'est pourquoi Rava discute avec Abaye et il dit que dans les deux cas, c'est-à-dire dans notre Mishnah ainsi que dans la Mishnah de Baba Metzia, il s'agit du cas où le propriétaire initial n'a accepté aucune responsabilité, c'est-à-dire que toutes les responsabilités sont passées à l'entrepreneur, et c'est donc que c'est presque comme une vraie vente. Ve'acha gabe prora haynu ta'ama de'ilu ati oved kochavim ba'izuze lo ya'ivle tafisla le'be'ema. Et ici, voilà la raison pour laquelle on considère que le propriétaire initial non-juif a encore une certaine propriété dans ces choses-là. C'est parce que si jamais le non-juif vient et il réclame son dû, il réclame son argent, et que le juif ne le paye pas, il attrapera l'animal. C'est donc que l'animal, la brebis elle-même, est un gage, en quelque sorte, pour le non-juif. Vilo mashkarle libema, tafis bladot dida. Et s'il ne trouve pas la brebis elle-même, il attrape les petits, car il considère que les petits sont une partie de la mère et que ceux-là aussi lui sont redevables et sont un gage desquels il peut prendre. C'est donc qu'il y a ici une propriété partielle du non-juif, et chaque fois où il y a une propriété partielle du non-juif, les animaux sont exemptés des lois du Bechor. C'est donc qu'en fait, ces animaux-là appartiennent en vérité aux juifs, mais comme il y a une certaine possibilité que le non-juif vienne les saisir, on considère qu'il y a une propriété partielle du non-juif, et c'est ça l'exemption de la Bechora, des lois du Bechor de notre Mishnah. Emit vladotem tachat imotem vlade vladot pturim. La Gemara cite une partie de la Mishnah qui dit que si le juif a engagé les petits à la place de leur mère pour être responsable de la somme qu'il doit, à ce moment-là, même la quatrième génération sera aussi exemptée des lois du Bechor. Alors là, la Gemara va apporter une discussion qui parle en fait du premier cas de la Mishnah, au cas où il n'a pas engagé les petits à la place de leur mère. Amar Ravuna, Vladot Pturin, ou Vladot Vladotem Chayavin. Ravuna dit que dans le premier cas de la Mishnah, où il n'a pas engagé les petits eux-mêmes sont exemptés si elles mettent bas, alors que à la quatrième génération, c'est-à-dire si la troisième génération met bas, il y a les obligations de Bechor. Rav Yehuda Amar, Vladé Vladot Nami Pturim, ou Vladé Vladé Vladot Chayavin. Alors que Rav Yehuda dit que la quatrième génération est aussi exemptée des lois du Bechor, alors que c'est seulement la cinquième génération qui sera, elle, un Bechor, qui aura les lois du Bechor et qu'il faudra donner au Kohen. Nan, Hermit Vladot Tachatimotehen, Vladé Vladot Pturim. On apporte une preuve de la suite de la Mishnah, donc. Le passage que la Gemara vient de rapporter, si le juif a engagé les petits en responsabilité à la place de leur mère, à ce moment-là, même la quatrième génération sera exemptée. Ta'ama de Hemid, halo Hemid lo, tufta de Rav Yehuda. On voit clairement que c'est seulement s'il a engagé les petits à la place de leur mère que la quatrième génération sera exemptée, alors que s'ils n'avaient pas engagé les petits à la place de leur mère, la quatrième génération aurait déjà les lois du Bechor. Amar lecha Rav Yehuda, ou adin apalgad de lohemid. Rav Yehuda dit, ce serait la même chose dans le cas où ils n'auraient pas engagé les petits à la place de leur mère. Vea kamashmanan, afilu hemid nami, de ukhe dovet kochavim le mitfas bena, de avec hemid de lohemid. Et voilà ce qu'on nous enseigne, que même s'il a engagé le petit à la place de sa mère, puisque de toute façon, l'habitude des non-juifs est de venir attraper le petit à la place de sa mère, c'est comme s'il n'avait fait aucun engagement, puisqu'il n'a rien rajouté au droit que le non-juif aurait pris pour lui de toute façon. Vladé Vladot Pturim ou Vladé Vladé Vladot Chayabin. C'est pourquoi il n'a rien rajouté, et la loi est exactement comme dans le premier cas d'après Rav Yehuda, que la quatrième génération est exemptée et c'est seulement la cinquième génération qui est un Bechor et qui doit être donnée au Kohen. Pnam, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, afilu ad asara dorot pturim, shachayutan lovet kochavim. Ici, la Gemara apporte une preuve d'un autre passage de la Mishnah et cette fois en aide à Rav Yehuda, c'est une question sur Ravuna. Il est dit dans la Mishnah que Rabban Shimon ben Gamliel dit que même jusqu'à 10 générations, les petits sont exemptés des lois du Bechor, car ils sont tous responsables vis-à-vis du non-juif. Bishlama le Rav Yehuda de Amar Nachit Tanakama le Dare. Ça marche bien d'après Rav Yehuda qui a dit que le Tanakama, le premier Tana de notre Mishnah, a aussi fait des distinctions entre un certain nombre de générations. C'est-à-dire que, d'après Rav Yehuda, on dit que la quatrième génération est encore exemptée des lois du Bechor, et c'est seulement la cinquième génération qui a les lois du Bechor. C'est pourquoi on passe à la page suivante.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.